La confession du petit homme. Je pourrais être votre grand-père, jeune homme. Je vais avoir 51 ans. Et vous, tel que vous m'apparaissez en ce moment, vous en avez peut-être 17. En supposant que j'eusse un enfant à 17 ans, et que cet enfant m'eût imité, je pourrais être grand-père. Tout ceci, je vous le dis, à seule fin d'attirer sur moi votre pitié et votre indulgence. J'aime la jeunesse, et dans mes moments de désespoir, c'est vers elle que je me tourne. Malheureusement, comme vous avez pu vous en rendre compte avec trop de maladresse, au lieu de lui inspirer quelque tendre sentiment, je ne l'aliène. Aujourd'hui, par cette soirée glaciale et humide, j'ai besoin d'un réconfort, j'ai besoin de ne plus me sentir seul, j'ai besoin d'une approbation et d'une affection. Vous me pardonnerez, mes enfants, de remonter si loin, mais il y a 20 ans, j'étais un tout autre homme qu'aujourd'hui. J'avais une femme, j'avais des enfants, j'avais des amis, j'avais une maison. J'étais en outre appelé à jouer un rôle très important dans mon pays, mais après avoir été battu une première fois aux élections législatives par un candidat socialiste, j'allais me représenter avec la certitude d'être élu. Les menaces qui pesaient sur la France avait ouvert les yeux des électeurs et un revirement s'était opéré. Le peuple sentait la nécessité d'être protégé. Il ne croyait plus à la chimère de la paix. Et il s'était retourné vers celui qui, sans succès la première fois, lui avait pourtant tenu le langage qu'après il attendait. Cette forte opposition dans mon arrondissement m'avait apporté un nombre incalculable d'amis dévoués et sincères. Un ministre, mort depuis longtemps, m'honorait de son amitié. Dans notre appartement de l'avenue du Pont-de-Piémont, nous recevions, ma femme et moi, tout ce qu'une grande ville comme Paris peut contenir d'esprits inquiets et tourmentés de célébrités. Mon fils Jean-Pierre avait alors 2 ans, et ma fille René-Maria 4. Moi-même, j'étais en pleine force, en pleine possession de mes moyens. La brillante carrière qui s'ouvrait devant moi, loin de me tourner la tête, me rendait modeste, sans affectation. Lorsqu'il m'arrivait de rencontrer un ancien camarade de lycée que le sort avait malmené, je n'avais de cesse que cette injustice fût réparée et j'intercédais en sa faveur partout où cela m'était possible. Qu'à ma vue, mes enfants, ce tableau enchanteur ne vous fasse pas sourire. Il n'est que peu de choses à côté de ce qu'était la réalité. Il n'y a rien dans ce monde qui ne laisse aussi sceptique et qui soit aussi difficile à faire revivre aux yeux d'autrui qu'un bonheur perdu. Il semble qu'on le montre comme on se le représente dans le souvenir, c'est-à-dire paré de douceur qu'il n'avait pas, mais que les années lui ont donné. Je dois vous dire pourtant que je suis resté en dessous de la vérité, justement pour ne pas tomber dans ce travers et que, si je voulais le dépeindre tel qu'il était, on me taxerait d'exagération. Mon mariage lui-même avait été celui que je désirais de toutes mes forces. De toutes les jeunes filles que je connaissais alors, Danielle Thérèse était certainement la plus fière, la plus jolie, la plus intelligente. Je l'aimais, avant même d'espérer un consentement de sa part. Je l'aimais en secret, avec une telle force, que j'avais peur de le lui avouer, et que je me contentais de conserver en moi cet immense amour. Un jour pourtant, je me trouvais dans un bal, seul avec elle, à l'écart. Mon émotion fut telle que je n'osais ouvrir la bouche de peur de me trahir. Quant à elle, elle semblait si maîtresse d'elle-même que j'avais la certitude qu'elle n'avait pour moi aucun sentiment. Mais soudain, elle se mit à rire nerveusement. Je crus d'abord qu'elle se moquait de moi et j'en fus horriblement peiné. Je voulus pourtant la calmer, convaincu que j'étais que dans son hilarité, elle ne s'apercevrait pas de mon trouble. Arrivé à ce point de son récit, le petit homme s'épongea le front. Il avait le sang à la tête. Une sueur fine couvrait son front. Ses mains tremblaient. « Je croyais, reprit-il, qu'elle ne s'en apercevrait pas. Je lui demandai en balbutiant ce qui occasionnait une telle gaieté. Et en riant toujours, elle me répondit qu'elle n'était pas gaie, et qu'au contraire, elle était très malheureuse. Je crus qu'elle continuait à se moquer de moi, mais cela me semblait tellement bas, d'une telle nature, que je me fis violence pour cacher cette impression. Et subitement, elle se calma, et alors, sur son visage redevenu normal, je vis en effet toutes les traces d'une profonde détresse. « Mais qu'avez-vous ? » demandai-je, toujours avec émotion. Elle ne répondit pas. Elle tira un fin mouchoir d'une de ses manches et me s'empanna les yeux. « Mais qu'avez-vous ? Qu'avez-vous ? » redemandai-je avec inquiétude. Elle me regarda alors avec une telle douceur que j'en fus bouleversé. « Je n'ai rien, dit-elle. Je n'ai rien qu'un peu de tristesse. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est pénible pour une jeune fille d'être malheureuse dans sa famille, de sentir continuellement autour de soi de l'hostilité. Ah, comme je voudrais partir au loin, ne plus voir personne, personne, personne. Soit à cause de l'imprévu de cet aveu, soit encore à cause d'un subit besoin d'épanchement, je prononçai alors deux mots qui décidèrent de tout. Deux mots, pourtant bien quelconques. Même moi, dis-je avec une émotion sincère. Devant cette attaque inattendue, elle parut d'abord tellement surprise que je crus qu'elle allait m'abandonner sur place sans desserrer les lèvres. Puis cet étonnement s'évanouit et elle me regarda avec de tels yeux que je compris qu'elle m'avouait son amour. Dire dans quel bonheur je fus plongé à la suite de cette scène serait impossible. Vous ne savez pas, mes enfants, ce qu'est un homme heureux. Vous ne pouvez pas vous en faire une idée. C'est quelque chose d'impossible à décrire. Imaginez un homme, vous, moi, le monsieur qui est en face de nous. Imaginez-le marcher sous la neige, sous la pluie, au milieu d'une tempête effroyable. Imaginez-le ayant ainsi à parcourir des kilomètres et des kilomètres. Et ensuite, songez qu'il chante, qu'il ne sent plus la pluie glacer sensiblement son dos, qu'il ne s'inquiète pas d'un logis ni de ses repas. Bien, je ressemblais à un tel homme. Comme lui, je n'attachais plus d'importance à tous les petits ennuis qui, malgré tout, naissent de chaque journée. Et 6 mois après, nous étions mariés. Un bonheur parfait commença pour moi. Je ne laissais aucune liaison derrière moi. La famille de ma femme et la mienne sympathisaient. Tout semblait devoir se dérouler éternellement dans le bien. Je tardais pas à avoir 2 charmants enfants, aux yeux desquels, lorsque je rentrais le soir après une journée de luxe, j'aimais à participer. J'éprouvais alors ce sentiment agréable de délassement que l'on ressent lorsque, oubliant les soucis et les préoccupations d'homme, on laisse remonter à la surface tout ce qu'il peut y avoir d'enfantin dans le cœur d'un homme, fût-il le maître d'un pays. Ce tableau de mon bonheur, mes chers enfants, n'est pas destiné à rendre votre condition présente plus pénible encore. Dans quels instants vous allez découvrir sa raison d'être? On était à 2 mois des élections de 1910. La campagne électorale battait son plein. Toutes mes soirées, je les passais à haranguer les électeurs, à leur montrer la nécessité d'avoir une armée forte en prévision des événements que nous étions malheureusement trop peu à prévoir. De toutes parts, la certitude de mon élection m'était confirmée. Regardez le petit homme que je suis aujourd'hui. Et sachez pourtant qu'alors, dans la presse, comme dans la foule, on m'avait couvert d'éloges. Un soir donc, je me rendis à une réunion électorale. Cette soirée, oh, je m'en souviendrai toute ma vie, et au moment de m'en aller pour toujours, ce sera à elle que je penserai. J'arrivai donc vers 9 heures au préau de l'école de la rue Sanceau. Une atmosphère orageuse y régnait déjà. Des acclamations, mêlée de coups de sifflet, m'accueillirent. La salle était divisée. Les socialistes avaient envoyé des émissaires pour troubler mon discours. Je montais sur l'estrade et tout de suite, je devinais l'hostilité que je rencontrerais. Mais je fis semblant de ne pas m'en apercevoir et je me mis à parler avec toute la chaleur de mes convictions. Peu à peu, le brouhaha s'apaisa et un silence religieux se fit. J'avais forcé mon auditoire à m'écouter. Une joie profonde était en moi d'avoir dompté ce peuple, si hostile un instant auparavant. Je m'échauffais. Et aux interruptions succédèrent des acclamations. À ce moment, je dois l'avouer, j'eus un sentiment d'orgueil qui fut la cause de ma perte. Il était à peine 10 heures. D'habitude, mon discours prononcé, comme tous mes collègues, je restais jusqu'à la fin de la réunion, c'est-à-dire minuit, quelquefois même 1 heure du matin, afin de répondre aux contradicteurs et surtout pour veiller à ce qu'aucun orateur adverse ne retourne à la salle. Et ce soir-là, pourtant, par orgueil, par forfanterie, pour punir en quelque sorte l'auditoire de m'avoir mal accueilli, arrivé au terme de ma péroraison, je remis lentement mon pardessus et, sans répondre aux acclamations, avec l'attitude digne d'un homme qui a remis les choses au point, je sortis. Je me retrouvai dans la rue Sansot. Il était à peine 10h15. Encore tout vibrant du contact de la foule, j'étais en face de moi-même. Tout homme devrait avoir connu ces instants où l'ivresse se mêle au sentiment de notre faiblesse. On éprouve alors le besoin de renvoyer sa voiture et de marcher seul, droit devant soi. Les hommes que l'on croise nous semblent des enfants, leurs occupations des vétilles. On respire à pleine poitrine. On éprouve le besoin de se mêler à la foule sans lui dire ce que l'on est. On marche vite et lorsque la pensée nous vient qu'on est après tout qu'un faible homme, on éprouve la plus haute et la plus noble satisfaction qui puisse être donnée à un être humain, celle d'être puissant malgré cette faiblesse, celle de pouvoir disposer à son gré de cette masse en même temps qu'on a la notion très nette qu'elle n'aurait qu'à vouloir pour vous écraser. Le ciel était constellé. La vie du jour continuait dans la nuit et donnait à mon succès nocturne quelque chose d'éclatant. Les pensées les plus ambitieuses traversaient mon esprit et je me voyais le chef de mon pays, un chef sans caprice, un chef indulgent aux pauvres, un juge pardonnant les fautes, sans pour cela perdre son autorité. Et ce fut dans cet état d'esprit que j'arrivais chez moi. Thérèse serait la femme de ce chef. Thérèse, par ses caprices, se rendrait parfois injuste. Et je me sentais fier des injustices que je ferais pour la femme que j'aimais par-dessus tout. J'écoutais avec délectation les propos des mécontents. Ils diraient « Oh, c'est à cause de sa femme qu'il a fait cela. C'est elle qui l'a voulu. Il ne peut rien lui refuser. » Quelle joie je ressentais à être à la fois cet homme fort et juste et cet homme qu'une femme conduirait. Je rentrais donc chez moi. J'appelais. Personne ne répondit. Je pensais que Thérèse était couchée et elle était déjà endormie. Je me rendis dans notre chambre. Il n'y avait personne. Alors, d'un seul coup, toute ma griserie disparut. Je me rendis dans la chambre des enfants. Ils dormaient. Je retournai dans mon bureau avec l'espoir d'y trouver un mot de ma femme, mais rien. Une inquiétude mêlée de soupçons m'envahissait. Je regardai l'heure, il n'était pas 10h30. Mais où peut-elle être, pensais-je? Si je téléphonais à sa famille, à mes amis. Mais une force incompréhensible me retint, comme si j'avais la certitude qu'elle n'était nulle part. Ma nervosité s'accroissait. Je ne pouvais plus rester chez moi tant je m'y sentais à l'étroit. Je redescendis dans l'avenue pour guetter le retour de ma femme. Il n'y avait presque personne. Le seul restaurant qui s'y trouve était déjà fermé. Les taxis se faisaient de plus en plus rares. Jusqu'à 11 heures, je vécus ainsi dans l'angoisse à faire les 100 pas devant ma porte. Soudain, une automobile s'arrêta à 50 mètres de ma maison. Je me dissimulai au coin d'une rue. Je vis une femme embrasser l'homme qui se trouvait au volant. Puis cette femme descendit de la voiture. Comme Thérèse, elle avait une fourrure blanche autour du cou. Mais au lieu de venir vers notre maison, elle se dirigea dans la direction opposée. Ah, ce n'est pas elle, pensais-je, c'est pas possible. Pourtant, obéissant à une force inconsciente, je la suivis. Si c'est elle, où peut-elle aller? Me demandai-je, fou de colère. Tout à coup, elle tourna dans une rue sur la droite. Alors je compris tout. Elle feignait d'aller à ma rencontre rue Ranceau. Je me mis à courir et tout à coup, je me trouvais à côté d'elle. « Mais Thérèse, m'écriai-je, où vas-tu ? » Elle avait une telle maîtrise d'elle-même qu'elle ne parut pas le moins du monde surprise. « Mais j'allais te chercher, » dit-elle. « Non, je te demande d'où tu viens, » criai-je, ivre de douleur et de colère. D'où veux-tu que je vienne si ce n'est de la maison ? Je passerai sur la conversation qui suivit. Je veux simplement vous rapporter le plus exactement possible les faits. Tout en parlant avec une violence inouïe, nous avons marché droit devant nous sans nous rendre compte exactement de l'endroit où nous allions, si bien qu'à un moment nous nous trouvâmes dans une rue donnant sur les fortifications et absolument déserte. Je ne savais plus ce que je disais. Thérèse me le fit remarquer. Elle ajouta que puisque je n'avais pas confiance en elle, il valait mieux divorcer. Alors, je ne sais plus ce qui se passa. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'eus conscience qu'il n'y avait personne autour de nous, que nous étions seuls dans la nuit. Je lui pris les poignets, elle se débattit et appela au secours. Une fenêtre s'ouvrit, puis se referma. Je me souviens qu'alors je la saisis de la gorge, je la maintins contre le mur avec une force non destinée à la tuer, mais à lui faire du mal. Tout à coup, elle tomba à terre. Je regardais de tous les côtés pour appeler à l'aide. Je criais. Cette rue n'était bordée que de petites usines. Je courus chercher de l'aide. Et arrivé au bout de la rue, je ne vis personne. À 30 mètres de moi, j'apercevais Thérèse, étendue le long du mur, comme une mendiante sans abri. J'appelais, mais je dus le faire si faiblement que personne ne m'entendit. Je songeais à retourner auprès de Thérèse, mais brusquement, je fus pris d'une terreur folle. Pendant quelques minutes, je marchais droit devant moi. Je croisais un passant. Je voulus tout lui avouer, mais quelque chose en moi, ce quelque chose qui a fait mon malheur, me retint. Pourtant, au bout d'un instant, je ne pus m'empêcher de revenir sur mes pas. Mais de nouveau, une frayeur folle me cloua sur place. Oh, je n'entreprendrai pas de vous narrer tout le détail de ma nuit, ni du transport du corps chez moi, ni de l'enquête de la police, ni de toutes les pressions exercé sur moi pour me faire avouer un crime pour lequel on avait des présomptions. Ce serait trop long à vous raconter. Je me contenterai de vous rapporter une parole d'un des inspecteurs qui chaque jour venait me harceler. Mais avouez donc que c'est vous le coupable, elle vous trompait, vous l'avez tué, mais c'est le mal à le crime passionnel. Vous serez acquitté et vous aurez la conscience tranquille. Mais je ne cédais pas. J'avais peur du châtiment. Je puisais la force de ne pas me trahir dans le sentiment que je me forçais à ressentir d'avoir accompli un acte de justice. J'avais peur de la police, de la prison. Je n'avais pas la même confiance en le jury de la cour d'assises que l'inspecteur qui me tenait les propos que je vous ai rapportés. C'était instinctif et irraisonné. Et pourtant, Dieu sait combien cela m'aurait soulagé d'avouer. Il y avait aussi le sentiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir accompli un acte de justice. Devant mes délégations, la police envisagea un crime crapuleux. On m'abandonna à moi-même. On chercha, sans grande conviction, le coupable ailleurs. Peu à peu, le vide se fit autour de moi. Ma belle-famille me demanda de lui confier la charge des enfants, ce que je fis. Quelques années s'écoulèrent. Je puisais la force de vivre dans la conviction que j'avais agi comme n'importe quel homme. Mais peu à peu, avec le temps, cette conviction s'émoussa. Et c'est à partir de ce moment que mon calvaire commença. « Pourquoi Thérèse est morte ?» me demandais-je quelquefois, sans raison, brusquement, alors que j'étais occupé à quelque travail. Et je répondais, « Mais c'est toi qui l'as tuée. Il faut donc pas t'en étonner. J'avais tué un être vivant et je me levais tous les matins. Je prenais mon petit déjeuner en lisant les journaux. J'allais me promener, je rentrais déjeuner, je ressortais en ville, je flânais chez les libraires. Et le soir, j'ai compté les concerts par TSF. Mais toujours, dans ces multiples occupations, quelque chose me rappelait que j'étais un assassin. Et ce qui est pire encore, un assassin qui n'a pas expié. Parfois, l'idée me venait d'aller tout avouer à l'inspecteur qui m'avait tellement durement traité. Mais aussitôt, une frayeur folle m'envahissait. Me livrer aux hommes, non, c'était impossible. Et peu à peu, mes griefs contre Thérèse s'évanouirent. Et il ne resta plus dans mon souvenir que l'image d'une femme qui ne méritait pas de mourir pour une question d'amour-propre. Les années ont continué implacablement de s'écouler. Aujourd'hui, plus personne ne se souvient de ce drame, sinon moi. Ma vie n'est qu'un long repentir. Mais écoutez-moi bien, mes enfants. Il n'y a pas eu de châtiment. Il n'y a pas eu de châtiment. Je n'ai pas payé aux hommes la dette que j'ai contractée envers eux. Le châtiment, j'ai voulu être seul à me l'infliger. Je n'ai pas eu la force de dire aux hommes « Faites de moi ce que vous voulez, punissez-moi aussi rigoureusement que la loi l'exige, je le mérite. À cause de moi, un être vivant a cessé d'exister. Et aujourd'hui, seul avec moi-même, j'ai conscience, malgré la sincérité de me repentir, de rester misérable toute ma vie. Aucune joie ne réchauffera plus jamais mon cœur. Aucun bonheur ne m'est accessible. Le seul qui me soit dévolu, celui d'expier, je n'ai pas la force de l'atteindre. Que me reste-t-il ? Le repentir. Mais ce repentir, aussi sincère soit-il, mais le regret de mon acte, aussi grand soit-il, que peuvent-ils devant mon crime ? Aussi, vous me voyez aller, venir, m'efforçant surtout de ne penser à rien. La seule chose qui me fait un peu de bien, voyez-vous, mes enfants, c'est lorsque j'ai la chance de rencontrer deux visages sympathiques comme les vôtres, à qui je peux ouvrir mon cœur. J'en suis soulagé, pour quelques jours seulement, car le sentiment de ma lâcheté, de ma laideur ne tarde pas à reparaître et à me poursuivre jusque dans les actes les plus insignifiants de ma vie. Ici prend fin la confession du petit homme. Jean Garnier et Violette l'avaient écouté avec émotion. La détresse de cet inconnu les avait touchés. Pas une fois, il ne l'avait interrompu. Le drame lointain était éclipsé par ce qu'était devenu son auteur. « Enfin, monsieur, dit Jean Garnier, puisque tout est possible, puisque vous avez abandonné toutes les jouissances de ce monde pour vivre dans le repentir. Ne trouvez-vous pas que vous vous êtes en quelque sorte infligé un châtiment aussi rigoureux que celui que la justice humaine vous eût infligé? Ce que j'ai fait, répondit tristement le petit homme, je l'eusse dû à la mémoire de ma femme, si je n'avais pas été la cause de sa mort. J'eusse abdiqué tous les plaisirs pour elle. Il s'arrêta un instant, puis reprit avec une animation inattendue. Mais c'est moi qui l'ai tué. Moi, cela mérite un châtiment terrible. Vous m'entendez? Terrible. Je devrais travailler nuit et jour dans les mines. Je devrais être enfermé 10 ans, 20 ans, entre 4 murs de pierre. Et c'est de cela que j'ai peur. Non, je ne pourrais endurer un tel châtiment. Je deviendrais fou. Pourtant, il n'y a que cela au monde, que cela qui puisse me racheter. Le petit homme faisait peine à voir. Sa confession l'avait transformé. Il devenait de plus en plus nerveux. Un tic lui faisait porter à chaque instant une main à son front, comme si ainsi il eût aidé à la clarté de ses réflexions. Quant à Changarnier, il était pâle. Pas un muscle de son visage ne remuait. Ses yeux étaient fixés sur le petit homme comme sur un spectacle extraordinaire. Et brusquement, il poussa un cri. La Violette. Changarnier promena une expression hébétée sur ses voisins. Il semblait ne pas s'être remis d'un coup qu'il avait reçu. Finalement, il retrouva son sang-froid. « Je comprends, » dit-il alors au petit homme avec volubilité. « Ce qui est terrible, c'est de rester seul avec le crime que l'on a commis. C'est de fuir le châtiment, c'est de le craindre. Ce qui est encore plus terrible. Non, je veux dire que c'est un soulagement immense de se livrer à ses juges, d'expier dans la douleur. » Comme un fou, Changarnier se leva, et sans prendre congé du petit homme, il sortit dans la rue. La neige s'était remise à tomber. Il y avait moins de monde. Les magasins étaient fermés. Sur la chaussée, les automobiles circulaient lentement, mais ne s'immobilisaient plus. Il se retourna. Violette était à ses côtés. « Tu m'as suivi ?» lui demanda-t-il machinalement, sans s'étonner qu'elle fût près de lui alors qu'il était parti en courant. « Je ne te quitterai jamais, » répondit-elle. « Et lui ?»« Oh, il est resté. » Il ne peut plus ouvrir les yeux. Je crois qu'il est ivre. Eh bien, partons. Profitons-en pour partir, pour fuir. Je ne peux plus le voir, cet homme. Il m'écœure. Quel lâche, quel infâme personnage. Et il rit, et il noie son remords dans l'alcool. C'est trop simple. Il devient philosophe. Il s'attriste sur la faiblesse de l'humanité dans laquelle il met la sienne. Partons. Il me semble que si je le rencontrais de nouveau, je le tuerais. » Le couple se remit en marche. Changarnier était absolument exténué. Il tombe titubé en marchant. Violette le suivait un petit pas comme un chien fidèle. « Mais j'ai peur, » dit brusquement le jeune homme. « Mais tu as peur de quoi ?»« Je ne sais pas, j'ai peur. Je crois que je vais mourir, que cela vaut mieux. » Que veux-tu qu'un homme comme moi, un homme, je m'appelle un homme, ne trouves-tu pas cela comique, du plus haut comique? Dis Violette, je te parle, réponds-moi, je te demande de me répondre. Mais répondre à quoi? Mais à tout, réponds. Alors tu trouves que je ne suis plus un homme, que je ne suis plus rien maintenant, que je ne mérite aucune pitié. Mais je t'aime, tu me suis, c'est tout. Tu es seul comme moi et tu me suis. Mais tu n'as peur de rien, tu n'as rien fait, tu ne feras jamais rien. Tu es contente de ton sort, tu trouves que tout est bien. Mais est-ce que tu comprends un homme qui ne pense pas comme toi? Réponds-moi. Mais naturellement, Changarnier s'arrêta de parler. Son visage était décomposé par la fatigue, la faim, le froid. Où allons-nous? Demanda-t-il. Oh, « où tu voudras ?» Il s'arrêta pour s'appuyer contre un mur. Tous deux se trouvaient dans une rue sombre où il n'y avait que peu de monde. Écoute-moi, Violette, je ne peux plus, je dois. Tu dois quoi? Je dois avouer, je dois subir le châtiment qu'on jugera bon de m'infliger. En prononçant ces paroles, Jean Garnier s'avança vers Violette. Une fois près d'elle, il pencha sa tête pour la cacher entre l'épaule et le cou de la jeune femme. Tu as donc fait quelque chose? Demanda-t-elle avec inquiétude. Il ne répondit pas. Il remua la tête à plusieurs reprises, comme s'il sanglotait. Elle se recula pour le regarder. Ses yeux étaient secs. Si tu as fait quelque chose, dit-elle, et si tu crois qu'on ne te prendra pas, il vaut mieux ne rien dire. Mais si tu crois qu'on te prendra, il vaut mieux te rendre, parce qu'alors on aura plus d'indulgence pour toi. Elle lui prit la main pour le réconforter. Il demeura insensible à cette marque de tendresse. De temps en temps, il levait les yeux au ciel, puis, comme si une lumière éclatante s'avait aveuglé, il les baissait brusquement et regardait la pointe de ses souliers. Tu ne me quitteras pas, je t'en supplie, dit-il finalement. Si je sais que tu es près de moi, cela me donnera la force de tout supporter. Allons, il faut que je me rende. Que veux-tu que je fasse d'autre? Écoute-moi. Nous nous arrêterons tous les deux devant le premier commissariat de police que nous rencontrerons. Je t'embrasserai alors sur le front. Tu me prendras les mains comme pour me retenir. Mais je me dégagerai doucement. J'entrerai le premier dans le commissariat. Tu me suivras à quelques pas et tu me regarderas avec amour en pleurant. Je dirai, je veux parler au commissaire lui-même au sujet d'une affaire très importante. Mais le commissaire n'y sera certainement pas, fit Violette qui avait déjà eu affaire à eux. Cela ne fait rien, je dirai qu'on me laisse attendre. Mais si on refuse, je dirai à l'agent, c'est moi qui ai tué, je suis prêt à subir la justice des hommes, je mérite le châtiment qu'on m'infligera. Faites de moi ce que vous voulez. Mais tu es complètement fou, mon garçon. Le petit homme t'a tourné la tête avec ses histoires de meurtre. Enfin, tu vas tout de même pas m'empêcher de me dénoncer. Je suis un criminel. Je mérite un châtiment. Ah ah. Tu voudrais peut-être que je ressemble à ce misérable petit homme sans courage, sans force. Tu voudrais que je vive avec ma faute, que je m'y habitue et que je finisse par l'oublier. Mais écoute, il faut rentrer. Tu es malade. Tu as la fièvre. Tu as besoin de repos. Je dirai à la propriétaire qu'elle fasse venir le médecin. Mais tu vois pas la neige qui tombe? Se mit à crier Jean Garnier. Tu ne vois pas notre misère, tu ne vois donc rien. Et tu me parles de propriétaire, de médecin, mais c'est toi qui es complètement folle. Laisse-moi aller à mon destin. Se dégageant brusquement, Jean Garnier se mit à courir. Parfois il se retournait, et était-ce à cause de sa faiblesse, il entendait toujours à quelques mètres de lui les pas de Violette qui battaient le sol à la même cadence que les siens. Finalement, à bout de souffle, il s'arrêta. Mais calme-toi, mon chéri, calme-toi, dit Violette en le prenant par le bras. Tu vois donc pas que tu rêves. Si tu continues, je vais être obligé de demander de l'aide aux passants. Mon passant, laisse-moi, laisse-moi. Je vais me tuer. Il faut que tout cela finisse. Il le faut, m'entends-tu? Il le faut. Inès, j'ai tué, je n'ai plus de famille, plus d'amis. Car si tous savaient la vérité, ils se détourneraient de moi. Viens, viens. Au premier agent que nous rencontrerons, j'avouerai tout. Je lui rendrai mes mains et je lui dirai, faites de moi ce que vous voudrez. Mais on ne fera rien du tout de toi. Tu crois à cela? Mais on te dira, voulez-vous nous laisser tranquilles? Nous n'avons pas de temps à perdre avec vous. Et tu seras bien obligé de te coucher. À ce moment, un coup de sifflet retentit aux oreilles du couple. Des phares d'automobile brillèrent aux deux extrémités de la rue. Puis d'autres sifflets retentirent. Jean Garnier se mit à trembler des pieds à la tête. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Les lumières se rapprochaient. Qu'est-ce que cela peut bien être? Demanda Violette. Laisse-moi marcher le premier, laisse-moi. Lâche-moi, je te dis, il faut que j'aille à eux. En disant ces mots, Jean Garnier se dégagea, et d'un pas mal assuré, il s'avança à la rencontre des lumières qui l'aveuglaient, dans un vacarme de trompes et de sifflets. Deux hommes, puis deux autres encore coururent à lui. Il entendit Violette qui poussait un cri strident. Mais il avait retrouvé toute la maîtrise de lui-même. Il entendit encore, avant qu'il fût complètement encerclé, des exclamations. « C'est lui ! Nous le tenons enfin ! On peut dire qu'il nous aura donné du mal, on ne le lâchera plus !» Méchant Garnier n'écoutait déjà plus. Les mains tendues vers ses poursuivants, il marchait à eux, comme à une source bienfaisante. Quand il fut assez près d'eux pour pouvoir être entendu sans crier, il cria « C'est moi, je vous cherchais pour me rendre et pour que vous m'affligiez le châtiment que je mérite. » Jean Garnier venait à peine d'achever ses paroles, qu'une explosion de rire retentit. « Vous entendez ce qu'il dit ?» fit une des voix. « Il nous prend pour des enfants. Il est toujours facile de se rendre quand on est pris. Oh, ils disent tout cela, les criminels. Dès qu'ils sont pris, ils allaient se rendre. Nous arrivons toujours une minute trop tôt. C'est curieux, ajouta un homme qui semblait le chef de la bande des policiers. Alors une lumière se fit dans l'esprit de Jean Garnier. Il aurait beau jurer, personne ne le croirait. Jamais personne ne croirait qu'il avait l'intention de se rendre. Il était un vulgaire assassin et le châtiment serait d'autant plus terrible qu'il avait essayé de l'éviter. Alors Jean Garnier fut pris d'une frayeur folle. On allait le tuer comme une bête. Mais comment pourrait-il se justifier? Il regarda autour de lui. Partout, il y avait des hommes. Alors, comme un fou furieux, il se jeta sur l'un d'eux, le bouscula pour s'enfuir, et il réussit à faire quelques pas, mais il fut tout de suite immobilisé par des bras robustes. Il se mit à hurler et à appeler au secours, et malgré ses propres cris qui l'assourdissaient, il entendait des voix qui disaient de l'attacher avec des cordes. Il se débattit encore, et soudain il crut voir devant son visage celui de Violette. Il lui cria « Mais tout est de ta faute! Si tu m'avais laissé faire, je me serais rendu, et rien de tout cela ne serait arrivé, rien, à cause de toi !» Mais il se passa alors un phénomène extraordinaire. Plus il criait, plus il parlait doucement. Bientôt, il eut conscience que ses paroles étaient devenues complètement silencieuses. Il regarda les policiers. Leur bouche s'ouvrait et se fermait, mais il n'entendait plus également ce qu'ils disaient. Pourtant, un murmure confus vint à ses oreilles. Il voulut se débattre encore, mais il se sentit maintenu avec une force telle qu'il eut brusquement notion, à travers sa fureur, à travers son instinct de conservation, qu'il était pris. En une seconde, toutes ses forces abandonnèrent. Et ce fut comme un homme ivre que deux solides gaillards, le maintenant sous les aisselles ainsi qu'une loque, le conduisirent jusqu'au plus proche poste de police. Des curieux s'arrêtèrent pour regarder, encadrés d'auto qui allaient au pas, dans un vacarme de cris, de vociférations, cet homme, dont les jambes suivaient derrière, se prenait subitement l'une dans l'autre pour finalement, sous le coup d'une bourrade, se trouvait droite même molle. Il y eut même, parmi ses passants, quelques timides protestations contre les brutalités policières. Mais un tel déploiement de forces liguées contre un seul être imposait malgré tout la crainte et faisait naître dans l'esprit de ces braves gens le souvenir de tous les crimes horribles dont l'assassin était resté impuni. Quand Jean Garnier revint à lui, il se trouvait assis sur une chaise dans un bureau éclairé au gaz et à l'électricité en même temps. Deux agents se tenaient debout derrière lui. En face de lui, il y avait une longue table. De l'autre côté de cette table, un homme assis également le regardait. Cet homme, qui était chauve, portait un lorgnon qui brillait ainsi qu'une épée. Une douce chaleur flottait dans la pièce. « Violette !» murmura Jean Garnier. Aussitôt, l'homme se pencha et écrivit. Jean Garnier le regarda avec étonnement. Violette, répéta-t-il pour voir si l'homme allait écrire de nouveau. Comme la première fois, la plume se remit à courir sur le papier. Alors, Changarnier comprit, brusquement, que l'inconnu était le commissaire de police. D'un bond, il se leva, il s'apprêtait à crier, à appeler au secours, lorsque brutalement il se sentit saisi par les épaules, puis poussé en arrière sur sa chaise en même temps qu'un croc en jambe, à rebours, l'empêchait de reprendre son équilibre. « Mais je vous jure, monsieur, que j'allais me rendre au moment où on m'en avait empêché. Je vous le jure, je vous le jure, je ne suis pas l'homme que vous pensez, j'ai une conscience. » « Mais on ne vous demande pas cela, » répondit froidement le commissaire de police. « Nous n'avons pas à nous occuper de ce que vous alliez faire. Ce que vous avez fait seul nous intéresse. L'heure est venue de vous expliquer. »« Laissez-moi partir, laissez-moi partir, » balbutia Changarnier, les yeux brillants de sincérité. « Rendez-moi ma liberté, et je reviendrai vers vous, je vous le jure. Et vous me jugerez, et vous me condamnerez à la peine la plus sévère qui soit. Mais laissez-moi partir. » « Je n'ai pas de temps à perdre, » fit sèchement le fonctionnaire. « Parlons sérieusement. »« Mais où est Violette ? Interrogez-la, elle vous dira la vérité. Il n'y a qu'elle qui puisse vous montrer que je ne suis pas celui que vous pensez. »« Je l'interrogerai après vous. » Changarnier mettait tout son espoir en la jeune femme. Il sentait combien fragile était cette planche de salut. Il leva les yeux au ciel. Toute la détresse d'une vie misérable, d'une vie sans joie, d'une vie qu'aucun amour n'avait embellie, se peignit sur son visage. C'était cette expression que l'on surprend chez tous les hommes quand ils ignorent qu'on les voit et que, cessant de s'observer et d'observer les autres, ils sont durant une seconde eux-mêmes. Il leva donc les yeux au ciel, serra ses mains avec désespoir et murmura, comme se parlant à lui-même, « Mon Dieu, pour qui pouvez-vous, venez à mon secours, faites qu'on croie une chose qui est, que vous savez qui est. Faites que malgré toutes les preuves qui sont contre moi, on cesse de douter de l'intention que j'ai eue de me rendre. » Et une voix du ciel, que seul Changarnier entendit, descendit jusque dans ce bureau où seul, parmi les lâchetés humaines, venait échouer celle qu'il était possible de saisir. « Je sais qu'au moment où on t'a arrêté, tu allais te rendre, mais je ne peux t'apporter l'aide que tu me demandes, car je ne peux savoir si quelques instants après tu n'aurais pas changé d'avis. Tu oublies que les hommes sont libres et séparés de moi. Toi seul, c'est ce que tu allais faire. » Comme l'enfant qui, une fois qu'il a quitté le ventre de sa mère, respire avec allégresse la vie qui s'offre à lui. L'homme, en voulant tout connaître, s'est séparé de moi. Il est seul et le restera jusqu'à son dernier jour. Les beautés de la vie l'attirent, et lorsqu'il se trouve en face d'un autre homme semblable à lui, mais autre quand même, ce serait une folie que d'essayer de se faire comprendre comme de le comprendre. En entendant ces paroles, Changarnier poussa un cri. Oh, « Cette comédie a assez duré !» fit le commissaire. « Ce n'est pas une comédie !» cria Changarnier. « J'allais me rendre au moment où l'on m'arrêtait. » « Mais il n'y avait pas autre chose à faire. Comment ? Mais si j'avais voulu éviter le châtiment, j'aurais pu fuir. »« Mais c'est ce que vous avez essayé de faire. Les témoignages sont là. Mais j'ai essayé de fuir pour courir à vous, pour me rendre. » « C'est. Si vous avez l'intention de continuer à vous moquer de moi, je vous fais mettre au cachot. Cela vous rafraîchira les idées. »« Mais dis la vérité, » fit fraternellement un des agents qui se tenait aux côtés de Changarnier. « Mais on ne veut pas me croire. »« Ben, si tu mens, évidemment. Mais je jure que je ne mens pas. »« très bien, dis la vérité. » Changarnier regarda autour de lui avec terreur. Le calme l'entourait. Un léger ronflement s'élevait du poêle. Les deux agents, dans leur uniforme, attendaient d'être relevés par deux autres agents. Quant au commissaire de police, il avait l'importance de ceux qui ne marchandent pas les heures supplémentaires de travail. Il voyait plus loin. Pour tirer les aveux de Changarnier, il resterait, s'il le fallait, 48 heures dans ce bureau, quitte à prendre plus tard un repos mérité. » Une porte s'ouvrit et un employé apporta un papier. « Écoutez-moi, monsieur le commissaire, je vous parle avec toute la sincérité, toute la franchise dont un homme peut être capable. Je n'ai peur d'aucun châtiment puisque je les mérite tous. Mais je vous supplie de croire ce que je vais vous dire. Je vous supplie de toutes mes forces. Si vous refusez de me croire, c'est que vraiment il n'y a rien sur terre, ni sincérité, ni justice, ni vérité. Rien, vous m'entendez, rien. Car quand une chose aussi vraie que celle que je vais vous dire semble un mensonge, mais que faire alors? Que faire? Je vous le demande, monsieur le commissaire, que faire? Se tuer tout de suite? Passer pour un illuminé, un fou, un faible, un peureux, et laisser derrière soi l'erreur, le mensonge? Ce que je veux vous dire, c'est qu'au moment où on m'a arrêté, j'allais me rendre. » Le fonctionnaire, à ces mots, sourit ironiquement. Jean Garnier le regarda avec stupéfaction. « Vous souriez ?» demanda-t-il avec douceur. « Oui, je souris. Mais de quel droit souriez-vous? Je vous parle, monsieur le commissaire, de quel droit? Oui, de quel droit? Oh, vous me permettrez de vous dire que ce que vous avez fait est si épouvantable que tout vos repentirs, que toute votre sincérité, que toutes vos meilleures intentions perdent leur vertu. Alors je suis un criminel, même après. » Jean Garnier se leva si brusquement que les agents ne purent l'en empêcher. Il se précipita vers le bureau avec de grands gestes. Mais il n'eut pas le temps de faire autre chose que de pousser un cri rauque. De nouveau saisi à bras-le-corps, ceinturé, immobilisé, ainsi qu'un fou furieux, il fut porté comme un enfant jusqu'à sa chaise. Cependant qu'il essayait de se débattre, il criait « J'ai droit à la justice, il y a une justice !» Il y a une justice. Pour tous autres hommes que ces policiers endurcis, ce spectacle eût été émouvant. C'était celui de l'homme que l'on conduit au supplice et qui refuse de s'y rendre, qui se débat, qui supplie, menace, appelle, puis perd connaissance, qu'on traîne quand même vers le bourreau ainsi qu'une loque, et qui brusquement se ressaisit, implore à nouveau, essaie de se dégager pour finalement rester sans un atome de force, mais conscient. Haletant, les narines écartées, la bouche crispée, Jean Garnier ne pouvait ôter son regard du commissaire de police. « Tuez-moi » fit-il finalement. « Non, mon rôle se borne à vous interroger, à vous remettre entre les mains de la justice. » De la justice, mais parfaitement de la justice. Violette, Violette, cria Jean Garnier. Au secours, Violette. À ce moment, une porte s'ouvrit, et la jeune femme, encadrée elle aussi de deux agents, entra dans le bureau. Alors transformée, Jean Garnier tourna son visage vers elle. Violette, je t'en supplie, dis la vérité. La jeune femme ne semblait pas se rendre compte de la gravité de la situation. Comme l'un des agents l'avait un peu bousculée, elle sourit. À la vue de son ami, maintenu ainsi qu'un forcené sur sa chaise, son visage pourtant se rembrunit. « Violette, dis la vérité !» répéta Jean Garnier, qui se tournait vers la jeune fille, comme vers la délivrance. « Quelle vérité ? Mais n'est-ce pas que j'allais me rendre au moment où on m'a arrêté ? Mais pourquoi te serais-tu rendu ?» Jean Garnier, encore une fois, essaya de se dégager. « Mais tu veux donc qu'on me tue » cria-t-il. Cette fois, M. Métro, ainsi se nommait le commissaire de police, s'impatienta. Depuis 14 ans qu'il exerçait, il n'avait jamais eu affaire à pareil inculpé. Au commencement, malgré l'horreur du forfait imputé à Jean Garnier, il avait fait preuve de bonté. Il savait par expérience que le meilleur moyen de découvrir la vérité est d'employer la douceur, de laisser parler et d'écouter avec une apparente crédulité les dénégations des coupables. Il avait donc commencé par suivre sa ligne habituelle de conduite. Ne lui avait-elle pas valu de retentissantes victoires? Mais l'homme est ainsi fait qu'il ne badine plus quand, s'étant contraint à une attitude favorable à son interlocuteur, Il s'aperçoit que ce dernier ne lui en sait d'aucun gré. Il oublie que cette attitude n'était favorable qu'en apparence. Il oublie les pièges qu'elle servait à cacher, pour ne retenir que ce qui lui apparaît tout à coup comme une trop grande bonté. Ce fut donc avec une voix dure qu'il ordonna aux agents de conduire Changarnier et Violette en cellule. Lorsqu'il fut seul dans son bureau, il alluma une cigarette, puis, durant quelques secondes, pensa à ce qui venait de se passer. « Étrange, cette histoire !» se dit-il. Il se leva, fit quelques pas, puis entr'ouvrit sa porte. « François, faites entrer Madame Chaumard !» Quelques secondes après, une petite vieille, pauvrement vêtue, fit irruption dans le bureau. Elle était si intimidée, elle savait si peu qu'elle était dans une femme âgée, qu'elle n'osait faire un geste. « Asseyez-vous, asseyez-vous donc !» lui dit gentiment M. Métraux, sans pourtant se lever. « Oh, merci, merci, ce n'est pas la peine. Mais si, mais si !» Finalement, la pauvre vieille obéit. C'était un autre spectacle propre à émouvoir un homme moins habitué que le commissaire à toutes les misères humaines que celui que donnait cet être timide, peureux, dans ce lieu. Le plus haut personnage à qui Madame Chaumard avait parlé jusqu'alors était peut-être quelque employé de mairie. Et aujourd'hui, témoin important, elle était reçue dans le bureau d'un commissaire de police. M. Métraux la regarda avec indulgence. Plusieurs points étaient obscurs dans les déclarations de Madame Chaumard. Certains soupçons effleurèrent son esprit. Les yeux, sur la première déposition, prêts à saisir toutes les variations que pourrait faire le témoin, le commissaire de police dit « Je voudrais, madame, que vous me relatiez à nouveau les circonstances du drame avant de vous mettre en présence de l'individu que nous supposons être l'assassin. » L'histoire d'un meurtre racontée par Madame Chaumard. « Je ne dors plus, monsieur le commissaire, depuis le soir terrible. Il y a 22 ans que j'étais au service de Mademoiselle Sorelli. Il y a 22 ans que je répétais que c'était imprudent d'être éclairé comme nous l'étions. Pensez donc à un magasin dont la devanture, large comme une porte, est la seule éclairée dans tout le passage. Partout de l'obscurité, des chiffons, des légumes, un cordonnier... Tout cela dans un quartier envahi d'étrangers. Et puis un seul endroit éclairé, comme dans un boulevard. Et dans cette lumière, des mondes, des bagues, des foulards de soie, des bibelots anciens. Je voudrais que vous me parliez du crime. Eh bien, voilà comme ça s'est passé. Je m'apprêtais à chercher les planches avec lesquelles je fermais la devanture chaque soir. Ces planches se trouvent, car nous n'avions presque pas de place, dans une remise, au bout du passage. Je venais de faire quelques pas lorsque je vis entrer dans la boutique une jeune femme assez élégante. Comme je savais que Mademoiselle Sorelli n'aimait pas que je ferme la boutique pendant qu'il y avait un client parce que cela le faisait partir, je suis rentré de nouveau. L'inconnue a demandé à voir une bague. Je me rendis alors dans le fond de la boutique pour y mettre un peu d'ordre et surtout... pour ne pas regarder ma maîtresse vendre, car elle n'aimait pas cela non plus. À ce moment, un homme, jeune, grand, fort, entra à son tour et referma la porte derrière lui. Avant, elle était restée entr'ouverte. Toutes les étoffes de la devanture et celles accrochées à la porte faisaient que du passage on ne pouvait pas voir ce qui se passait dans le magasin. J'entendis alors l'homme dire « Nous allons garder cette bague ». Et comme la femme la rendait pourtant à Mademoiselle Sorelli, il la prit des mains de ma maîtresse et la mit dans sa poche. Ce simple fait me parut déjà drôle, car il n'avait pas encore été question de son prix. Mademoiselle Sorelli dit alors, « Elle est de 150 francs. »« Bien, bien, je la prends, » dit l'homme, « j'en voudrais d'autres. »« Est-ce que vous sauriez reconnaître cet homme et cette femme ?» « Oh, certainement. Bien, continuez. » À ce moment, Mademoiselle Sorelli se tourna vers moi. À son regard, je compris qu'elle était inquiète et qu'elle voulait que j'ouvre la porte. Je revins donc dans le milieu du magasin Mais comme il était très petit, il aurait fallu, pour que je puisse passer, que l'homme me fît de la place. Il ne bougea pas. Je l'osais lui demander de me laisser rentrer. Sa femme, elle ne s'occupait ni de lui, ni de moi, ni même de Mademoiselle Sorelli. Elle regardait attentivement une robe qui pendait à un clou et semblait ne connaître personne. Montrez-moi donc d'autres bagues, répéta l'homme. Alors je regardai Mademoiselle Sorelli. Elle me fit un petit signe de tête. Et ce fut à cet instant que le drame se produisit. Mais est-ce que vous me prenez pour un bandit? Dit cet homme en nous regardant l'une et l'autre. En réfléchissant, j'ai compris que cet homme était décidé, en entrant, à faire un mauvais coup. Et s'il a mis si longtemps à le faire, c'est qu'il avait peur, qu'il cherchait une provocation pour se donner du courage. Et comme il venait de me demander si nous le prenions pour un bandit, ma maîtresse lui répondit que c'était l'heure à laquelle nous avions l'habitude de fermer le magasin, et que c'était pour cela que je devais le déranger pour passer. Elle ne passera pas, dit-il brusquement. Et en même temps, il tira un revolver de sa poche. Allez, votre argent, vite, vite, à toutes les deux. Oh, je me souviendrai toujours de la réponse de ma maîtresse. Je veux bien, dit-elle. Je répondis comme elle, je veux bien, puisque moi je ne possède rien. Mademoiselle Sorelli se dirigea alors vers le fond de la boutique, comme pour chercher sa sacoche. Mais vous ne connaîtrez jamais Mademoiselle Sorelli, puisqu'elle n'est plus. Elle tenait à son argent plus qu'à sa vie. Après avoir cherché, ou plutôt fait semblant de chercher, elle dit: Je ne le trouve pas, attendez un petit peu. Si tu ne me le donnes pas tout de suite, tu es morte. Bien, bien, je vous le donne. Et ce furent ses derniers mots. Elle s'approcha de l'armoire qui se trouve contre le mur de gauche et qui est cachée par plusieurs fauteuils empilés les uns sur les autres. Derrière ces fauteuils, au pied de l'armoire, il y avait un tas de vieilleries, des dentelles, des peignoirs, une robe. Brusquement, elle prit à pleine main ses hardes, les porta jusque devant sa poitrine, et se croyant à l'abri, elle poussa un cri strident. Au même moment, il tira et, comme un fou, me repoussa dans le fond de la boutique. Au même moment, prise de peur, la femme ouvrit la porte et sortit en courant sans la refermer. L'homme, occupé qu'il était à chercher partout l'argent, ne s'aperçut même pas que la porte était ouverte et que du passage sombre, on pouvait voir tout ce qui se passait dans le magasin éclairé. Et pendant qu'il fouillait, je regardais de tous mes yeux le passage. Oh, je ne sais pas combien de temps il resta, mais je sais que je vis un homme passer, puis un autre, et que ni l'un ni l'autre ne détournèrent la tête. Et ton argent, à toi? Me dit-il au bout d'un instant. J'étais tellement hypnotisé par la porte ouverte que je ne le regardais pas s'il lui répondit. Il se retourna, vit le passage. Alors, sans plus s'occuper de moi, il s'enfuit. Et ce fut à ce moment-là que je perdis connaissance. Lorsque Madame Chobard eut terminé son récit, le commissaire de police alluma une nouvelle cigarette, prit un crayon entre ses doigts et à brûle-pourpoint demanda: Vous avez un fils, Madame Chobard? La pauvre femme, comme si elle se fût attendue à cette question depuis longtemps, répondit d'un trait: Oh oui, monsieur le commissaire. Je sais ce que vous allez dire, mais je vous jure que ce n'est pas lui. C'est une forte tête, oui, il a tout fait, mais je vous jure que ce n'est pas lui. Et comment se fait-il qu'il n'ait plus reparu à son domicile depuis le soir du crime? Ben, il a peut-être eu peur qu'on l'accuse, je ne sais pas. Il est peut-être parti avec une femme, mais je l'ai vu, l'assassin, et je sais que ce n'est pas mon fils, d'ailleurs. Mademoiselle Sorelli avait fait son testament depuis longtemps. Elle n'avait pas de famille. Elle était très vieille. Elle me léguait tout. Justement, il faut chercher dans un crime quelle en est le bénéficiaire. L'assassin n'a rien trouvé. Par conséquent, tout ce que possédait Mademoiselle Sorelli va vous revenir. Monsieur Maître était un homme cruel. Il était convaincu de l'innocence de la vieille femme. L'enquête avait révélé en effet que le fichomard avait bien disparu depuis le soir du crime, malheureusement 2 heures trop tôt. À 5h45, il prenait le train à la gare de l'Est pour se rendre à Chalon-sur-Marne, où il allait rejoindre une femme employée dans une maison hospitalière de la ville. Ce détail, sa mère l'ignorait. Monsieur Bétraud ne pouvait résister au plaisir de jouer avec cette malheureuse. Il lui était pénible de s'être trompé. Cette servante avait donc dit la vérité. Elle avait donc gagné la partie. Il aurait voulu pouvoir relever contre elle un grief quelconque. Il ne lui pardonnait pas d'être femme, d'avoir pour fils un chenapan, et d'être innocente et d'avoir dit la vérité. Il se vengeait en l'effrayant. Il espérait que, dans sa peur d'être accusé, dans sa peur de perdre son fils, tout à l'heure, quand il la mettrait en présence de Changarnier et de Violette, elle se forcerait à les reconnaître dans son affolement. Alors, si Changarnier n'était pas le coupable, ce dont il était certain au fond de lui-même, ce ne serait pas fini avec cette femme dont le seul tort était d'être innocente comme un enfant. Je vais vous présenter un individu, dit le commissaire, qui à nos yeux est certainement l'assassin de Mademoiselle Sorelli. Nous l'avons arrêté tout à l'heure à 200 mètres du passage où le crime a été commis. Il répond, ainsi que sa compagne, au signalement que vous nous avez donné de ce couple. Vous les regarderez avec la plus grande attention. Vous comprenez qu'il ne faut pas s'amuser à tromper continuellement la justice. Faites bien attention. Et avant de prononcer un mot, réfléchissez bien aux conséquences que vos paroles pourront avoir. Quelques instants après, Changarnier et Violette étaient introduits dans le bureau du commissaire de police. Aveuglés par la lumière, ils restèrent un instant désorientés. Puis, comme s'il fût brusquement revenu à la réalité, Changarnier, toujours encadré par 2 agents, dit avec volubilité: Alors, monsieur le commissaire, vous me croyez maintenant? Vous croyez que je vous ai dit la vérité, que je ne suis pas un vulgaire assassin, que je ne me suis pas rendu parce que ma conscience me commandait de le faire? Il n'eut pas le temps de terminer, madame Chobard l'interrompit. Oh, non, non, ce n'est pas lui, non, 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 non. On y est, non? Oh, c'était tout à fait différent, les miens. La neige tombait toujours. Il y avait peut-être 1 heure que Changarnier et Violette étaient sortis du commissariat. Ils marchaient côte à côte. Ils ne parlaient pas. Déjà, les cafés fermaient leurs portes. La neige commençait à couvrir les chaussées où ne circulait aucune voiture. Parfois, cependant, 2 lignes noires parallèles s'en allaient sur le sol vers le lointain. Ils ont finalement compris que j'avais raison, dit Changarnier avec calme. Ils ont compris que je ne mentais pas. Ils ont compris que je n'étais pas un vulgaire assassin. Enfin, toi-même, tu sais très bien que lorsqu'ils m'ont arrêté, j'allais me rendre. L'essentiel est qu'ils nous aient relâchés. Naturellement, la vérité a été la plus forte. On peut se tromper, on peut commettre des injustices, mais tôt ou tard la vérité éclate. Il n'y a rien à faire contre cela. Les plus grandes puissances du monde sont devant elles comme des enfants. Quand un homme a la vérité pour lui, il vaincra. Ah, ils auraient bien voulu que je ne dise rien, que j'accepte d'être pris comme un rat. Leur coup était bien monté, mais nous avons la vérité pour nous, n'est-ce pas, Violette? Mais depuis ce soir, je ne comprends plus rien à ce que tu dis. Je crois que le commissaire avait raison quand il a dit qu'on n'allait certainement pas tarder à t'enfermer dans une maison de fous. Ah, tu me fais rire. Tu n'as donc pas compris qu'il a dit cela par dépit. Pense donc. Sur le point de gagner la partie, il la perd. S'il y a quelque chose qui n'est pas drôle, c'est bien cela. Je ne te comprends toujours pas. Enfin, c'est pourtant simple. On arrête un assassin au moment où cet assassin allait se rendre. Oui, cela, je le comprends. Eh bien, on n'a pas le droit de dire que l'on l'a arrêté. On n'a pas le droit parce que je ne sais pas comment le dire cela. On n'a pas le droit. Mais pourquoi? Parce que je me suis déjà arrêté moi-même. que j'ai décidé d'expier un crime. Mais quel crime ? Laisse-moi parler. Ils ont cru arrêter un assassin et ce n'était plus un assassin. Il faut rentrer, tu as la merlade, tu as la fièvre, tu as besoin de repos. Oh non, je n'ai pas sommeil. Je suis heureux, sans que je m'élève. Toute la bassesse humaine reste derrière moi. Et tu voudrais que j'aille dormir, mais marchons. Il neige, mais la neige est blanche, légère, heureuse, comme moi. Elle tombe de plus en plus, mais au lieu de nous cacher l'autre monde, elle nous l'annonce. Il tombe toujours de la neige dans la nuit de Noël. Ne sois donc pas fatigué au moment où je suis si heureux. Nous étions sans but, sans argent, sans amis. Et maintenant tout est joyeux. Les hommes m'ont battu, accusé. Puis ils ont compris la vérité. Quelle vérité ? Ils ont compris qu'il n'y avait rien de vulgaire en mon cœur. Et que si j'étais capable, dans un moment d'oubli, de commettre la plus terrible des actions, j'étais capable aussi de la plus grande pureté. Ils auraient pu m'enfermer, me martyriser. Ils ne l'ont pas fait et m'ont laissé à mon destin. « Suis ton chemin, » m'a dit le commissaire de police. « Oui, je le suivrai, mon chemin, tout seul, avec toi à mon côté. Plus personne ne nous barrera le passage. » Il est 1 heure du matin, il faut rentrer. Je ne peux pas rentrer, il faut que je suive mon chemin. Je ne veux pas les tromper. Violette s'arrêta. Elle prit la main de Changarnier et le regarda dans les yeux. Tu sais que tu es malade ? Non, je ne sais pas. Il voulut repartir droit devant lui. Violette le retint. Puis comme il insistait toujours pour se dégager, elle le lâcha brusquement avec terreur. À son insistance douce, à ses paroles sans suite, à son expression égarée, il venait de lui apparaître subitement qu'il était peut-être réellement fou. Prise de frayeur, elle le regarda marcher devant elle, lentement, sans se retourner. Un instant, elle voulut courir derrière lui, mais elle eut peur. Lorsqu'il fut à 50 de mètres d'elle, elle se décida à le suivre. Alors commença dans les rues désertes une promenade étrange. Deux êtres, comme s'ils ne se connaissaient pas, marchaient lentement à travers la ville. Le premier ne se retournait jamais. Le deuxième n'accélérait jamais le pas. Pourtant, après une demi-heure de ce manège, Changarnier s'arrêta un peu comme un cheval qui arriverait au bout d'une impasse. Violette, malgré sa frayeur, le rejoignit. « Maintenant, il faut rentrer !» Changarnier ne répondit pas. Il ne regarda même pas Violette. Il leva simplement sa main jusqu'à la hauteur de sa tête, puis avec la même tranquillité, reprit sa marche. Quand il eut fait 20 de pas, Violette cria « Pierre !» Il continua sans entendre. Elle l'appela encore une fois, puis une autre. Et quand il eut disparu à un tournant, elle resta un instant indécise, puis, tristement, elle se dirigea vers l'hôtel.